things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Corinne Rondeau, Ingrid Luquet-Gad et Frédéric Bonnet. C'est une première dispute pour Ingrid Luquet-Gad. Nous sommes très heureux d'accueillir à notre affiche ce jour Franz West. Au Centre Pompidou, Alphonse Muchat au Musée du Luxembourg, Balthus à la Fondation Beyeler et un coup de cœur qui sera celui de Corinne Rondeau et qui pour l'instant reste secret, suspense. Aïssa Tundoy est là pour donner à entendre vos commentaires, les commentaires que vous pourriez déposer sur la page Facebook de la dispute ou sur le compte Twitter Dispute FC. Et puis il y aura bien sûr en fin d'émission des cadeaux à gagner ce soir, des invitations pour aller voir Mademoiselle de Jonquière, le film d'Emmanuel Mouret qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et un duo pour commencer cette émission avec Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet qui se sont rendus à Bâle, à la Fondation Beyeler, pour y découvrir l'exposition consacrée à Balthazar Klossowski de Rolla, plus connu sous le nom de Balthus. Il est mort en 2001. L'exposition, elle débute avec un de ses chefs-d'œuvre monumental, Passage du Commerce Saint-André. L'exposition propose une cinquantaine de peintures issues de toutes les périodes créatrices même de l'artiste. C'est vraiment pas l'heure de l'émission, en fait. Mais si, il est bien 19h05, il faut y aller. Raphaël Bouvier et Michiko Kono sont les commissaires de cette exposition. L'art de la fugue, le bac pour commencer cette dispute consacrée à Balthus. Donc, précision, hein, si c'est un duo qui va se disputer, c'est parce qu'on a prévenu Ingrid Luquet-Gad trop tard et qu'on lui a demandé trop tard de participer à l'émission de ce jour. Donc, elle n'a pas encore eu le temps de faire le voyage à Bâle. À la tête galerie qui lui demandait des éléments biographiques, Balthus avait répondu « La meilleure façon de commencer est de dire « Balthus est un peintre dont on ne sait rien ». Et maintenant, regardons les peintures. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Avec vous, pour commencer, Corinne Rondeau.
Pourquoi pas? Alors je dirais que la Fondation Beyeler m'avait habituée à voir des expositions beaucoup plus tenues, malgré le petit nombre qu'il y a à chaque fois, mais avec beaucoup de un choix très sûr à chaque fois. J'étais un peu déçue à la fin de l'exposition. Par ailleurs, le début est assez nouveau puisqu'il y a quelques tableaux de 1928 que moi je ne connaissais pas. Petit format, 1928, donc il n'est pas tout à fait vieux, on va dire. Il est tout jeune, il commence à faire de la peinture. Ce sont de petits formats, 100 sur 88 ou 45 sur 55. Ils sont tous autour du Luxembourg ou de l'Odéon. C'est très étonnant parce qu'il y a déjà quelque chose du regard qui se fait avec une sorte de voyeurisme déjà. Par exemple, vous avez au jardin du Luxembourg un adolescent avec une raquette et puis une petite fille de dos qui ramasse une balle et derrière une dame de dos. C'est-à-dire, il y a une triangulation du regard et on se dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui vous met dans le cadre d'un voyeurisme. Donc, effectivement, on est très heureux de voir ces trois ou quatre tableaux du début. Et puis, on est très heureux aussi de revoir la rue, le passage Saint-André-des-Arts et la jupe, qui sont quand même les trois tableaux qu'on connaît le mieux. Et c'est vrai que quand on les a, ils tiennent toujours. C'est-à-dire que on peut revenir, pendant 10 ans, je dirais, ces tableaux tiennent, ils ont une structure de la spatialisation qui est absolument remarquable. Par ailleurs, au-delà de ça, il y a une exposition qui tourne autour beaucoup de portraits et de femmes nues. Bon, on n'est pas très étonné, il y a beaucoup de femmes nues chez Balthus, mais il y a peu de paysages, par exemple, alors que j'attendais sans doute un peu plus, notamment la Fondation Bayeler, parce qu'elle est ouverte sur l'espace, l'extérieur. Donc, j'ai trouvé que, si vous voulez, j'ai pas été surprise. Et j'ai été déçue par la fin qui, en fait, a raccourci une durée de travail de Balthus, puisque pendant une quinzaine d'années, il a été directeur de la Villa Médicis. Et en fait, pour dire qu'il a été occupé à la Villa Médicis, vous avez 4 tableaux. Voilà. Et,
oui, c'est donc, 16 ou 17 ans de sa vie quand même.
Oui. Alors, bien sûr, il a fait beaucoup de travail sur les fresques, enfin, travaillant les murs, mais il a fait aussi beaucoup de portraits de familles riches, bourgeoises, romaines. Et donc, tout ça, le travail du dessin, par exemple, on n'en a pas. Donc, j'étais un petit peu, j'étais déçue, on va dire. Mais, voilà, par ailleurs, j'ai d'autres choses à dire.
Bon, on n'en doute pas, Corinne Rondeau. Fred Aigbonnet, déçu, enchanté, réservé, mitigé, à voir votre tête.
Oui, mitigé, mais j'ai toujours un rapport très ambivalent à Balthus depuis toujours. Ça n'a pas changé avec cette exposition. Je rejouerai parfaitement Corinne sur la fin particulièrement décevante. La dernière salle est assez catastrophique. Elle fait le terme de raccourci que vous employez est exactement celui-là. C'est-à-dire que l'exposition joue assez bien les années 30, 40, 50. Et puis on a l'impression que d'un coup il n'y a plus rien jusqu'à cette salle ultime dans laquelle il y a 4 tableaux qui en plus pour 2 d'entre eux sont de véritables catastrophes. C'est vraiment des mauvais tableaux. Il y a un tableau de 89 qui s'intitule « Le chat au miroir numéro 3 ». Et alors là, on se demande véritablement comment il a pu arriver dans une telle exposition chez Bayeler, où on sélectionne quand même toujours des pièces de manière assez scrupuleuse et où on obtient des prêts assez prestigieux. Ce tableau vient d'une collection privée en Asie. Est-ce que la galerie qui le lui a vendu, en l'occurrence Gagosian, aurait fait un peu pression sur la fondation pour vraiment le mettre dans l'exposition? C'est pas exclu, je me dis. Mais et surtout qu'il est accroché en face de, par contre, un très beau tableau, la chambre turque de 1965. Donc celui-là réalisé à la Villa Médicis, exactement. Et donc vraiment le choc entre les deux est catastrophique à tout point de vue. Le tout est complété par un autre tableau des années 80, nu, qui est un peu trop dégoulinant à mon goût. Donc ça va pas très bien.
Oui, parce qu'après la villa, il lui reste quand même un quart de siècle à vivre.
Ah bah, tout de même, oui, puisqu'il est
production qui reste importante tout de même.
Absolument. Oui. Donc voilà. Donc on a rien de tout ça. Après sur le reste de ce que dit cette exposition, moi ce qui m'a toujours fasciné et continue de me fasciner chez Balthus, c'est la dimension énigmatique de sa peinture, souvent renforcée par une texture un peu vaporeuse et une dimension énigmatique qui joue pleinement par la théâtralisation dans laquelle Balthus excelle absolument. Et par théâtralisation, j'entends mise en scène. Vous avez parlé, Corinne, de la dimension spatiale et de l'organisation spatiale. spatiale du tableau. Là aussi, je vous rejoins complètement. Il y a un traitement de l'espace qui souvent est fait de manière très rigoureuse, très orthonormée, tout en s'arrangeant avec les perspectives. Notamment, il y a un très beau tableau de la fenêtre de son atelier cours de Rohan en 1951 qui est absolument magnifique. Et évidemment, celui qu'on présente comme le chef-d'œuvre, le passage du commerce Saint-André, là on atteint le point d'acmé de cette spatialisation et de cette organisation. Ensuite, un dernier mot, c'est que si je trouve que Balthus peut être un bon portraitiste, ça n'est pas toujours le cas, mais quand même ça arrive. Moi, je trouve que par contre, il est un paysagiste assez navrant et il y a notamment un mur.
Corinne Rondeau n'est pas d'accord. Disons-le tout de suite.
Avec trois tableaux des années 40, que j'ai trouvé très difficile à regarder, on va dire, notamment un tableau qui s'intitule Le cerisier, une jeune fille en train d'amasser les cerises.
Elle est sur une échelle, Frédéric.
Bah oui, elle est sur une échelle. Ouais, alors, ça n'enlève pas que.
Peut-être parler de ça quand même, parce que dans une époque de plus en plus, on va dire, frileuse, montrer des jeunes filles. Dont on voit le plus souvent les petites culottes, comme cette Thérèse Révan qui a fait toute une histoire l'hiver dernier à New York, puisqu'il y a une pétition qui a recueilli des milliers de signatures pour dire qu'il fallait enlever ce tableau des murs du Metropolitan Museum, qui n'a pas évidemment répondu à cette demande. Est-ce qu'on regarde différemment aujourd'hui Balthus? Est-ce qu'on ose moins accrocher certaines œuvres que d'autres? Cette Thérèse Révan, elle a fait le voyage à Bélier?
Oui.
C'est un tableau qui vous intéresse?
Écoutez, moi, tout m'intéresse. Hein. Non, effectivement, quand je suis sortie, je me suis dit quand même, il y a un axe quand même sur les petites filles qui a été fait, il y a un choix qui a été fait. Voilà, les Suisses veulent aussi dire, nous, on n'a pas peur des petites culottes. Bon, tant mieux pour eux. Hein. Bon, moi, je vais d'abord voir de la peinture, vous voyez.
Non, mais
donc,
après,
c'est la manière dont on peint la culotte qui m'intéresse, et pas du tout la culotte et la petite fille. Donc, quand on voit la jupe, c'est ce qui sera la première femme de Balthus, elle est quand même dénudée, elle a je sais pas comment ça s'appelle, sur la poitrine, elle a pas un soutien-gorge, mais elle a une combinaison, donc c'est très collant, on a les pointes des seins, c'est très érotisant, on va dire. Puis sur le côté, vous avez un drapé avec une géométrie. Bon, en fait, bon, voilà, je veux dire, je comprends ce qui ne plaît pas à Frédéric, c'est-à-dire, c'est une peinture extrêmement bourgeoise, et là, je l'ai vue. Parce que quand on a vu Balthus, Giacometti et Derain, je trouvais ça formidable.
Parce qu'en
fait, il y avait chez Derain une profondeur de la peinture avec un magma comme ça qui arrivait en fin d'exposition, la finesse, le raffinement de Giacometti. Et puis, il y avait la précision, la spatialisation de la couleur, notamment chez Balthus. Et c'était impeccable, cette expo. Là, on arrive et on n'a que Balthus. Et en fait, quand il n'y a que Balthus, mais pas assez Balthus, je dirais, pas assez, c'est-à-dire, je trouve que c'est trop, trop marqué. On met trois chefs-d'œuvre, la jupe, la rue, le passage Saint-André, et ensuite on va aménager ça assez vite, pour moi quand même, de beaucoup de jeunes filles. Ça me gêne. Ça me gêne, sinon, de penser au parti pris que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, on n'a pas peur, la peinture, c'est aussi ça. Ben, la peinture, ça doit faire peur à tous les endroits. Pas simplement parce qu'on nous montre... Enfin, le moment de la moralisation, il est partout. Moi, personnellement, vous voyez, c'est pas le truc sur lequel je vais mordre, parce que je laisse les autres qui n'ont rien à dire et à faire là-dessus. Mais je trouve dommageable que l'exposition est quand même orientée un petit peu là-dessus. Parce que, si c'est le cas, je comprendrais alors qu'il y ait un raccourci à la fin de l'œuvre de Balthus. Parce que quatre tableaux, la chambre turque, le chat au miroir et le nu couché, je crois qu'il y en a trois ou quatre, c'est comme si en fait c'était un peintre raté. Et je pense qu'en fait c'est pas un peintre raté, c'est un peintre. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est dommage d'avoir raté l'exposition. Mais ce que j'ai vu en revanche, c'est vraiment une peinture bourgeoise à souhait. Là, je n'ai vu que ça, à savoir, il y a toujours un secret. Et en fait, c'est un secret de Polichinelle, mais surtout, gardons-nous bien un côté un peu sombre, un peu... La géométrie est là, la fenêtre est coupée ici. Voilà, bon, après, il y a des tableaux qui sont tout à fait étonnants. On en parlait avec Frédéric, de ce drap bleu, une jeune fille qui a comme un drap bleu ou un pull bleu sur la tête, et on a l'impression qu'elle a un papillon autour du visage, par exemple. Bon, voilà, il y a des choses un peu inattendues comme ça, où le poisson rouge, un personnage, un enfant qui regarde le spectateur, un chat qui regarde le spectateur aussi en sortant du fauteuil, et puis le bocal, le poisson rouge. Et ce truc-là est assez, assez sidérant, en fait. Ça ne fait que vous regarder. Et c'est une manière de vous dire, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes mon petit sale petit secret? Ben oui, monsieur Balthus, bon, ben voilà. Et sinon, il a un frangin, hein, Pierre Klosowski.
Oui, que vous préférez, nettement.
Ben, c'est-à-dire qu'il il est tellement névrosé, si vous voulez, par rapport à son frangin, qu'il en a accumulé des tonnes et des tonnes. Puisqu'en fait, Balthus, grâce à... Rainer Maria Rilke fait son premier dessin, c'est son premier livre Mitsu à 11 ans. Et Pierre Klosowski sera le secrétaire personnel de Gilles grâce à Rilke. Et donc, à la suite de quoi, il va se mettre à dessiner beaucoup plus tard, mais il va abandonner l'écriture pour faire du dessin. L'un fait les petites filles, l'autre les garçons, mais l'autre, l'aîné fait mieux, parce qu'il le fait au crayon.
Et Rilke qui avait été le secrétaire de...
etc. etc. Ouais.
L'histoire est longue. Juste un petit mot quand même, Ingrid Le Kegan, vous n'avez pas pu aller voir encore cette exposition à Bayeux. Vous avez une curiosité pour Balthus? Est-ce que Frédéric Bonnet ou Corinne Rondeau vous ont donné envie d'aller voir ou plutôt de rester en retrait?
Moi, je me souviens de l'exposition qu'il y avait eu chez Gagosian il y a quelques années. On découvrait effectivement des tableaux qu'on ne connaissait pas du tout, qui étaient plutôt des paysages, des natures, effectivement, toute une série de photographies. Et j'avais trouvé que c'était assez intelligent de montrer justement le côté un peu plus domestique et quotidien, et de sortir un peu de ces chefs-d'œuvre qu'on connaît, de ces scandales qui n'avaient pas encore émergé. Mais effectivement, c'était un Balthus un peu plus intime, qu'il était assez intéressant de découvrir, quoi, par des petits formats ou par, au contraire, des très grands paysages.
Un dernier mot, Frédéric, sur l'exposition Beyeler. Alors, c'est vrai que Beyeler, on est habitué, quand on y va, à être assez émerveillé ou épaté par... Et donc là, il y a pas mal de bémols sur celle-ci, résumer.
C'est surtout qu'en fait, cette exposition, elle ne me lève pas le doute que j'ai un peu depuis toujours. Alors, Corinne, là aussi, je partage complètement avec vous le poisson rouge, là, le bocal. Ça, si un tableau dans l'expo, c'est celui-là. Bon. Et parce que ça rejoint justement cette dimension énigmatique qui, à mon sens, est la force véritablement du travail de Balthus. Mais au final, ce qui ne me plaît pas chez Balthus, c'est pas tant la dimension bourgeoise de son travail, que de me demander s'il n'y a pas une forme d'expression réactionnaire dans sa peinture par cette opposition systématique aux avant-gardes et au modernisme. Alors néanmoins, il y a un style singulier qui est à certains égards captivant, il y a une intensité plastique, il y a une curiosité, voilà. Mais quand on regarde les tableau des années 40, j'en reviens par exemple à ce tableau, le cerisier, qui est beaucoup plus lisse que les autres. Par ce caractère lisse et par la couleur de la toile, on pourrait penser un petit peu à ce que fait en parallèle Picabia dans les années 40. Picabia qui reprend aussi un peu une vilaine peinture lisse, au coloris un peu criard également. Mais chez Picabia, il y a une volonté d'être à contre-courant complet, plus un humour, et il y a aussi un détachement. C'est de créer une fausse académie.
Là, moi, je ne sens pas du tout que l'humour soit très présent chez Balthus, on va dire ça comme ça.
Voilà, ouais, j'en vois pas des
masses. Pas la qualité première. Bon, beaucoup de choses à dire encore, mais allez voir si vous le pouvez par vous-même. Cette exposition Balthus à la Fondation Beyeler jusqu'au 1er janvier. Vous avez quelque chose à rajouter, Corinne Rondeau?
Non, là, c'est nous, ils prennent un ton d'un tableau. Et il peigne un mur, il y a une cimaise entière qui a un ton derrière lequel se trouve le tableau se trouve sur ce... Ça, c'est très réussi en termes de scénographie. Bon. C'est une manière de remplir le vide aussi, je crois.
Bon, alors le catalogue, lui, de l'exposition, il est publié par Adjekans. À suivre dans la dispute, Franz West, Alphonse Mucha et le coup de cœur de Corinne Rondeau.
La dispute, France Culture. Get the right.
Nous poursuivons cette dispute en nous rendant cette fois au Centre Pompidou pour y découvrir une autre rétrospective. C'est la soirée des rétrospectives dans la dispute. Là, on va parler de celle consacrée à Franz West, artiste autrichien mort lui en 2012. 40 années de travaux présentés dans cette exposition, des premiers dessins, premières sculptures, avant la célébrité de l'artiste qu'il connaîtra relativement tardivement, jusqu'aux sculptures en extérieur, mais aussi des œuvres en papier mâché, des œuvres meubles, d'autres réalisées en collaboration avec d'autres artistes. Les commissaires de l'exposition sont Christine Massel et Marc Godfrey.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement de notre vol.
Un voyage dans le temps avec Corinne Rondeau. C'était la musique qui servait de générique à Surpris par la nuit. L'émission qui nous a fait nous rencontrer, Corinne, il y a bientôt 20 ans. Bon, on n'est peut-être pas là pour raconter notre vie qui passionne évidemment les foules comme chacun sait, mais plutôt pour écouter Ingrid Lukegan commencer à nous parler de cette rétrospective Franz West, alors qui suscite déjà pas mal de réactions parce que Franz West, c'est, alors pour le coup, c'est pas tellement bourgeois.
Alors moi, je me souviens justement de Franz West à la Biennale de Venise en 2017, dans justement la grande exposition de Christine Massel déjà, Viva Arte Viva, où elle avait ressorti une photo de Franz West assez peu connue allongée sur un lit dans son atelier, assortie du lit en question, du mobilier, pour illustrer justement cette partie consacrée au loisir. Puisqu'elle avait fait le choix de séparer la vie artistique entre loisir, osium et travail. Donc à l'époque, j'avais trouvé que c'était une séparation assez datée, puisqu'il me semble que justement la vie artistique, c'est comme ça quelque chose qui est un peu à la pointe du néolibéralisme, c'est-à-dire on peut pas distinguer entre travail et loisir. Mais quand même, cette petite pièce, c'était un peu ce qui avait le plus attiré mon regard à l'époque. Et au Centre Pompidou, on retrouve un Franz West, Franz West.
Ah oui, il faut bien prononcer.
Franz West, parce qu'il est autrichien.
Non, pas West.
Un Franz West, donc, ouais. Qui est justement rendu un peu à cette vie extrêmement vivante qu'il a pu avoir dans la Vienne qu'on s'imagine, avec la vie de café, avec tout son cercle d'amis, de musiciens. Et l'exposition commence justement par une série de toutes petites œuvres sans prétention, qui sont des œuvres en format carte postale ou format papier monnaie, puisque c'était des œuvres qui dessinaient vraiment pour payer ses cafés, ses consommations dans les cafés, les restaurants du coin, qui s'appellent donc les Mutterkunst, les œuvres pour sa mère, puisque sa mère apparemment était aussi très inquiète de le voir justement se reposer un peu trop sur ce grand canapé qu'on connaît. Et donc ça, c'est des tout petits formats qu'on connaît pas du tout, qui datent de la toute fin des années 60, qui réalise entre 69 et 73 au stylo bic. Et donc du coup, c'est absolument passionnant parce qu'on les a jamais vues, elles ont jamais été montrées de son vivant non plus. Et on découvre dans cette introduction justement un Franz West qui dessine déjà des corps en train de danser, des corps en train de manger, des corps en train de se reposer. Et c'est un peu toute la thématique sous laquelle on va pouvoir un peu relier cette exposition, qui est vraiment un corps quotidien. Donc c'est aussi un peu le second aspect de l'expo, c'est qu'on voit aussi en quoi il s'oppose vraiment à toute la scène de l'actionnisme viennois des années 60, qui est quand même cette scène extrêmement torturée, violente, nietzschéenne, pour le dire la manière la plus gentille. Et voilà, donc on découvre un Franz West extrêmement généreux, très drôle. Et le parti pris justement de faire une rétrospective strictement chronologique, finalement, lui va très bien. Parce qu'on se rend compte qu'au cours de sa vie, il a comme ça des thématiques récurrentes qui vont revenir. Il collabore tout le temps, il se recycle. Et donc c'est vraiment une exposition extrêmement jouissive et aussi un moment assez important pour l'histoire de l'art, puisque c'est vraiment la première rétrospective qui a été faite depuis sa mort, qui était en 2012, donc c'est un peu le moment de ressortir ça.
Alors, ressortir ça, on n'a pas encore donné beaucoup d'images à nos auditrices et auditeurs. C'est pas tout à fait évident parce que l'œuvre, elle est vraiment protéiforme. Alors, des formes très différentes. L'organicité est souvent présente. Frédéric Bonnet, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme image à nos auditrices et auditeurs pour parler de Franz West?
Ce qu'on pourrait donner comme image, c'est en premier lieu une sculpture qui effectivement est en permanence reliée au corps, qui ne se détache pas d'une idée de la corporalité, ce qui va notamment, et ça c'est très très bien que ça a été placé quasiment d'emblée dans l'exposition, il y a des sculptures qui sont portables. Ça, c'est les pièces qu'il a commencé en 1973, donc au début de sa carrière. Et il y a des reproductions de certaines de ses œuvres dont le public peut s'emparer.
On peut toucher. Et non seulement on peut, mais on doit.
Oui, voilà. En l'occurrence. On peut se déplacer avec. Et donc, cette dimension-là est absolument essentielle. Il y a une autre dimension qui est ce côté, finalement, assez trash du travail et de la sculpture de Franz West, qui est basé sur des objets, des matériaux et des formes de la vie quotidienne. Mais là où, moi, ça m'intéresse, c'est que... Il n'y a pas chez lui un intérêt pour le banal, mais il y a plutôt une forme de transcendance du banal qui lui permet de développer un vocabulaire et un langage. Mmh. Et cette question du langage, elle est absolument centrale dans le travail parce que elle va rejoindre celle de la conversation. Et l'exposition est remarquablement disposée et accrochée, je trouve, parce que elle met parfaitement en lumière ce questionnement central qui est celui de la conversation dans le travail de Franz West. Et quand on commence à revenir sur cette question-là, on se voit qu'elle est présente absolument partout. La conversation, c'est parce que vous, spectateurs, vous pouvez vous emparer d'une sculpture et vous déplacer avec. La conversation, c'est aussi un travail qui est fait à partir du mobilier. Franz West a beaucoup, à partir du milieu des années 80, il a commencé à travailler aussi sur le mobilier, et il y a véritablement des mises en scène, entre guillemets, d'éléments de mobilier souvent en métal, avec ce qui va être des œuvres, entre guillemets, plus traditionnelles, et qui est une manière aussi assez habile d'aborder le sujet de la contemplation en même temps que le sujet de la conversation. Et la conversation, elle se fait aussi par des collaborations qui sont multiples, et notamment il y a un très joli socle avec quatre sculptures, je crois, dont les socles ont été réalisés par Aimo Zobernig, donc peintre viennois également. Alors, on ne sait plus ce qui en fait est le socle et la sculpture. C'est tout ça est remarquablement intelligent. Mais voilà, je trouve, je vais me réapproprier l'adjectif employé par Ingrid pour dire que c'est une exposition absolument jouissive.
Et on poursuit la conversation avec Corinne Rondeau sur Franz West. Est-ce que vous avez du goût déjà pour Franz West avant cette exposition?
Moi, c'était les boudins. Si vous voulez. Oui, moi, le boudin, ça me... Pff,
le gros boudin rose.
Rose. les trous et les boudins. Mmh. Voilà, c'est ma période West, c'est 2000 et c'est trous et boudins. Et là, je me dis, waouh, le petit objet A est passé par là, etc., etc. Mais je ne vais pas chanter de chanson. Mais je trouve que l'expo est vraiment assez formidable, même si je la trouve un peu sans électricité. Elle est, y a des moments, je trouve que c'est trop posé. Mais j'ai découvert effectivement quelque chose d'une... Alors, écoutez, moi, j'ai jamais vu d'artiste dont le but est grosso modo nous faire des assiettes qui sont des causes... des fauteuils qui sont des causeuses, où on doit converser, ou être allongé, enfin, parce que être allongé, être assis ou être avachi, grosso modo, il n'y a que ça. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de prendre la posture de l'objet. Donc, en fait, la question n'est pas celle du sujet. Alors, d'un coup, on se dit, mais il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui nous disent tes sujets, prends la position de l'objet. Et finalement, à l'intérieur de ça, il est obsédé, je pense, par l'échange, c'est-à-dire c'est un gros névrosé, on va dire. Donc, toutes ses œuvres collaboratives, ses amis, mais aussi, puisqu'il crée du mobilier, de la sculpture, du collage, des dessins, Ingrid, vous l'avez dit. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de choses, il y a une spatialisation. Il fait de la spatialisation. Mais cette spatialisation, c'est justement jouer à l'intérieur de quelque chose avec quelqu'un. Soit en le faisant, le créant, soit avec le spectateur, comme l'a dit Frédéric, à savoir, il y a toujours voilà, un espace dans lequel il y a du langage et du corps qui doit s'y mettre. Alors ça, c'est un dispositif qui est très particulier, on va dire, dans l'art. Ça n'existe pas à part lui, je trouve, de cette manière-là. Effectivement, le côté, il y aura personne qui sera nu, en train de se passer les passe-stücks, les pieds, les morceaux qui s'adaptent, hein, en allemand, les morceaux de forme qui s'adaptent. Hein, c'est de la pâte à papier avec du plâtre. Et donc, il y avait quelqu'un, parce qu'il y a comme des grands isoloirs dans l'exposition, il y avait un type qui était en train de se le passer entre les jambes, derrière la jambe, derrière le bras et tout ça, et quelqu'un est en train de le prendre en vous photo. Savez comme ça se fait là avec les films. Bonjour. Et donc c'est assez ridicule. Enfin moi j'ai trouvé ça très ridicule.
Pourquoi ridicule?
Mais parce que je trouve que ces trucs-là devraient se faire, je dirais, avec un peu plus de trash, parce que c'est ça. Je sais pas.
Ah, c'est déjà beaucoup qu'on puisse aller effectivement au musée, qu'on puisse s'emparer des objets, qu'on puisse les manipuler,
qu'ils existent. Tout le monde dit qu'il faut s'emparer de tout, quoi. Là, vous avez vu dans quel état on a la planète?
Justement, cher Corinne. Je vois pas bien le point, non.
Justement, il parlait de ça pas comme, parce qu'on l'a beaucoup aussi relié à l'esthétique relationnelle, parce qu'il émerge.
Ne prononcez pas ce.
Non, pas du tout. Alors justement.
Non, mais ça existe.
Je vous en prie.
Ça existe.
Mais il émerge dans les années 90, donc forcément en France, on a eu cette lecture-là.
98.
Et 90 au Musée d'Art Moderne, il me semble.
Vous parlez du livre ou vous parlez de France Vest? Du livre de Nicolas Bourriaud.
Ah oui, moi je parle de France Vest. Et du coup, justement, effectivement, moi je lisais un peu ce qui est sorti dans Art Forum, on l'a beaucoup relié à ça. Et lui, ça part quand même d'un rapport beaucoup plus intérieur de soi à soi, où il va dire justement que tous ces objets qui sont faits pour nous faire adopter des postures qui sont absolument ridicules, bon, les chaises, là on peut pas s'asseoir là-dessus, mais bon, on voit que c'est quand même pas très confortable. C'était pour lui une manière de révéler vraiment l'inconscient un peu enfoui comme ça et dans cette ambiance un peu de Vienne putride de l'époque, quoi. Donc c'était sans doute beaucoup moins drôle que ce qu'on pense, et c'était quand même assez porté par ça, quoi, par une relation de soi à soi.
Corinne Rondeau.
Moi j'ai fini par sortir de l'exposition en me disant que c'était une exposition sur l'objet transitionnel, quoi. Voilà. Et on en est à cet endroit-là. Donc si ça plaît aux gens, c'est super. Jacques Lacan dirait c'est entre la chure et le regard. Donc ça peut être très très
entre
excitant. Le mot que vous avez entendu. Mais par contre, je veux rajouter une chose, la chiure et le regard.
Voilà, merci.
Ou Louis et la tétine, pour finir la phrase.
La citation.
Mais il y a quelque chose de formidable. Il y a, par exemple, une série de trois pièces qui sont redondances. Écoutez, c'est moche que ça n'en peut plus, mais c'est d'une élégance incroyable, je vous assure.
Description,
alors ce sont des tas colorés, on va dire. Il faut que je retrouve le truc. Ce sont trois.
Dans le catalogue.
Trois formes de, on va dire, trois sculptures qui sont chacune différente des autres, qui ont à peu près 1m20, 1m40, 60 même de haut, on va dire, et qui sont des empilements de papier mâché et qui sont peints, dont l'une d'ailleurs est peinte avec une dorure, enfin il y a quelque chose de paillettes. Oui, il y a des paillettes, et je vous assure, quand moi je suis arrivée, je me suis dit, waouh, c'est assez. Et mais en fait, en très peu de temps, on se dit, mais c'est impeccable. C'est impeccable. Il y a beaucoup de pièces dans l'exposition qui m'ont fait cet effet-là. Et je dois dire que, bon, indépendamment de la petite ironie objet transitionnel.
Non, mais il y a de ça.
Oui, non, mais il y a. Non, mais c'est ça. Il n'y a que ça.
Oui.
Voilà. Sauf qu'il a réussi à le décliner, on va dire. Voilà. Donc tout le monde ne sait pas le faire. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être artiste, hein, même si. Ben, en tout cas, je trouve que cette question du corps et du langage auquel il ne cède jamais et qui traverse donc du mobilier à la représentation, je trouve ça assez stimulant, même si ça a fait son temps aussi.
Frédéric Bonnet, peut-être pour finir.
Oui, je crois que Vest détestait l'idée de beau et l'idée d'élégance, justement. Mais je dois reconnaître que en regardant ces sculptures, il y a tout de même, et c'est ça le tour de force d'un grand artiste, il me semble, il y a une force plastique et une attraction de la laideur. Parce que globalement, elles sont quand même moches, ces pièces, mais il y a véritablement une attraction de la laideur.
Et c'est pas seulement le monumental, hein, il faut le le préciser parce que
non, 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 ça peut être ça peut être
certaines ou certains ont vu par par-ci par-là des grandes œuvres de Franz Weiss, mais il y en a des toutes petites dans l'exposition qui font un effet tout aussi puissant.
Tout à fait. Et juste un mot pour terminer, c'est que là où moi me semble-t-il Weiss et parce que si on repart, si on, on rebondit, si on rejoint encore cette idée de conversation, ce qu'il y a de fascinant et dans le travail de Weiss, c'est que finalement ça s'apparente à une synthèse entre le corps, l'âme et l'intellect, parce qu'il y a aussi en bon viennois des références constantes à la psychanalyse, et notamment si on se promène à l'extérieur de la galerie, il y a quelques citations de Weiss, dont une où il parle des objets qui sont des mises en forme de symptômes névrotiques. L'objet comme mise en forme de symptômes névrotiques. Moi, je trouve ça formidable.
Formidable. Dernier mot pour Ingrid de Kegat sur Franz Weiss.
Non, moi, je m'étais pas trop concentrée, du coup, sur cet aspect-là de sculpture, hein, mais plutôt sur les œuvres sur papier, aussi les dernières où il fait des vraies fausses affiches pour Gagosian qui sont en fait des brouillons, mais qui sont des toiles, hein. Mais du coup, effectivement, à propos de cette idée d'esthétique, d'une espèce d'informe, de coagulation, de rugueux, d'organes et d'intérieur du corps, je trouve que c'est quelque chose qui revient quand même, qui revient vraiment chez les jeunes sculpteurs, en fait, qu'on peut voir actuellement dans les galeries. Enfin, là, il y a une expo de Gaël Schwann, par exemple, à Béton Salon. Je pense qu'on est en plein dedans. Il y a du plâtre, il y a des coussins, on peut s'asseoir. Il y a des cigarettes qui sont un peu le pendant des Labstücke, où justement où c'est des bouteilles de vernissage qu'on a chez Franz Weiss. Je pense à Daiga Grantina qu'on a vu récemment au Palais Tokyo. Il y a pas mal d'autres artistes.
Postérité de Franz Weiss, en tout cas influence.
Mais alors je pense que c'est une influence qui s'ignore, mais je pense que ça ferait beaucoup de bien à cette génération d'artistes.
D'aller à Beaubourg.
Ouais, et de non mais d'avoir un peu justement ce chaînon manquant, de savoir un peu d'où viennent ces formes, et peut-être aussi de le relier à une forme de réflexion sur la conscience.
Alors, ils ont envie de réagir du coup l'un et l'autre. Frédéric Bonnet.
Non, mais si on va effectivement sur la question de la postérité de Franz Weiss, on va remonter aussi beaucoup plus dans le temps, et on a l'usage des matériaux pauvres, on a l'usage de la rugosité, on a Erwin Wurm, artiste autrichien, qui fait les One Minute Sculpture. Ça vient d'où à votre avis? Et Urs Fischer dans le collage et l'assemblage. Et je pense qu'on peut en sortir une liste longue comme le bras.
Corinne Rondeau, vous voulez dire encore un mot ?
Non, je reprendrai juste une citation de Franz Weiss. Asseyez-vous sur l'art.
Ben voilà, pour finir cette séquence consacrée à Franz Weiss et son exposition qui se poursuit jusqu'au 10 décembre au Centre Pompidou. Elle sera ensuite à la Tête Moderne à Londres du 20 février au 2 juin 2019. Catalogue édité par le Centre Pompidou. Et avant Alphonse Mucha, le coup de cœur ce soir dévolu à Corinne Rondeau qui nous parle d'un petit nouveau. Vous en avez jamais parlé, je crois, sur cette antenne. Chris Marker.
Bah oui, écoutez, j'étais déçue par les
obsessionnel un jour, obsessionnel
bah oui,
toujours.
Mais j'étais déçue. On a eu la coupe de cheveux de Kim Jong-un cet été. Non, allez, c'est bon. Alors, non, coréenne.
Je ne sais pas de quoi elle parle.
Non, je parle de la République populaire de Corée, voyez.
D'accord, la Corée du Nord.
La Corée du Nord.
Oui, ouais. Allez-y. Okay, bon, coréenne, bref. De Chris Marker, c'est un livre publié à l'Arachné.
Après la déception à la Cinémathèque, sort le Coréenne de Chris Marker aux éditions L'Arachnéen qui avait été édité au seuil en 59, et là on a le facsimilé qui comporte une postface qui était dont le texte était déjà dans le CD-ROM immémoré pour ceux qui l'ont
et ceux qui peuvent encore le faire marcher.
Ah oui, c'est surtout ça parce que moi il ne marche plus.
C'est un peu le problème.
Alors ce livre est sorti fin août et j'ai pu le lire avec grand plaisir, et je vous le propose parce qu'en fait c'est moi qui n'aime pas voyager. Ce livre vous fait voyager dans le temps et dans l'espace, mais avec je dirais beaucoup de grâce, d'intelligence et de beauté. Alors d'abord parce que ces textes et photos, que Chris Marker est quand même quelqu'un qui sait absolument mettre des mots face à des images sans que l'un et l'autre les oblitèrent. Il est toujours dans une forme d'écart qui fait que voilà, on n'est jamais arrêté par l'image ni par le texte, et c'est pas explicatif. Et c'est aussi tous ces portraits de femmes, parce que moi je me suis arrêtée sur deux choses, puisque ce voyage qu'il fait en 58 à l'invitation du Parti communiste français pour visiter justement après la guerre de Corée la reconstruction du pays, bien il va en faire tout de suite ce livre, et on va voir ses photographies. Toutes les photos ne sont pas de lui, hein, quelques-unes qui échappent, notamment un petit chat de Agnès Varda. Mais ce livre est vraiment voilà, entre les contes qui ramènent de ce pays dont on ne connaît rien même aujourd'hui, à savoir qu'ils ont inventé les premiers l'imprimerie mobile avant Gutenberg, ils ont inventé le premier char, le cuirassé, qui s'appelait je ne sais plus comment, et ce sont ces visages de femmes qui sont d'une beauté folle. Il écrit « Le sourire oriental est un masque », mais il est d'une telle légèreté que c'est absolument merveilleux. Il y a des contes aussi, notamment un faisan, il y a un bûcheron qui prend soin d'un faisan, et puis il y a un serpent qui va se transformer en femme et qui va l'enfermer dans une tour. Et le serpent femme lui dit « Si tu arrives si les dieux peuvent te permettre de faire sonner la cloche à plusieurs kilomètres, eh bien je te libérerai ». Et en fait, à l'agonie, mais au petit matin, la cloche sonne, et donc le serpent disparaît, la tour enfumée disparaît aussi, et il rejoint le temple pour rendre hommage au dieu, et finalement il voit le corps fracasser son faisan. Et il n'y a pas de conclusion, mais grosso modo, ça serait de se dire aussi, finalement, ce que nous protégeons, c'est aussi ce qui nous sauve. Donc il y a des tas de petits trucs, et je fais juste un... Aujourd'hui sort Correspondance des Cévennes aux éditions de l'Arachnéen de Fernand Deligny, qui a été, je dirais, redécouvert par les éditions 2007. Donc je vous le conseille, il y aura Guattari, Truffaut, Dolto, etc.
etc.
Voilà, mais pour l'instant, j'avais 15 000...
Vous avez des coups de cœur pour toute l'année, comme ça, oui, chaque fois que ce sera à vous. Là, c'était pour Chris Marker et Coréenne, édition L'Arachnéen.
France Culture. La dispute.
Dernière séquence de cette dispute art plastique avec encore une fois une rétrospective au Musée du Luxembourg, cette fois consacrée à Alphonse Mucha, artiste tchèque, associé à juste titre à l'Art Nouveau. Il va vivre 20 ans à Paris de 1887 à 1906, devenant au passage l'affichiste attitré de Sarah Bernard. L'exposition entend justement dépasser cette dimension d'affichiste pour célébrer le travail pictural de Mucha. Commissaire de cette exposition, c'est Tomoko Sato, qui est conservatrice de la Fondation Mucha à Prague. C'est Frédéric Bonnet que l'on suit dans le musée du Luxembourg, à la découverte ou redécouverte, ou une nouvelle fois découverte d'Alphonse Mucha.
À la fois découverte et redécouverte, parce que précisément, moi, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, c'est sa deuxième moitié. Évidemment, on connaît tous, même sans le savoir, le travail décoratif, et Sarah Bernard, les boîtes de petits lus, voilà, tout ça est là, très élégamment présenté, c'est bien fait, c'est très agréable à regarder. Mais alors, la deuxième moitié, on passe d'un artiste décoratif à un artiste spirituel et politique. Et Et là, ça devient véritablement intéressant, nouveau pour moi, parce que alors, j'avoue que j'en connaissais vraiment pas grand-chose. Je ne savais pas qu'il était franc-maçon, je ne savais pas qu'il avait fait un grand volume pour illustrer le pater, et c'est là où je trouve qu'il y a un tournant qui commence à s'opérer, parce que on voit particulièrement dans les études, plus que dans les planches finales, une gravité qu'on lui avait pas vue auparavant, s'agissant de son motif fétiche qui est Sarah Bernhardt, il y a un très beau dessin d'une étude pour un portrait de Sarah Bernhardt avec son fils, qui est tragique, qui est sombre, et qui est pas du tout léger et coloré comme on connaissait Moucha auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est la mise en perspective, oui, véritablement politique, d'engagement de Moucha, qui à un moment s'est retrouvé un peu en porte-à-faux entre les commandes entre guillemets décoratives qu'on lui passait, notamment le pavillon de la Bosnie-Herzégovine pour l'exposition universelle de 1900, donc commandité par l'Autriche qui a annexé la province, et Moucha qui va revenir au fondement d'un nationalisme slave qui va finir par notamment développer un grand cycle de tableaux sur le sujet. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir.
Est-ce que vous avez découvert beaucoup de choses, Ingrid de Kegan?
Oui, moi je connaissais les boîtes lues, hein, et les nymphes un peu anémiques comme ça. Et c'est vrai qu'on sent dans le choix de la scénographie que tout est fait pour lui redonner effectivement cette gravitas dont vous parliez. Parce que bon, c'est quand même les couleurs quand même des murs pourraient pas être plus sombres. Tout est comme ça très pesant. Effectivement, la partie qui commence dans les années 1900-1910, où on le découvre peintre de guerre, a un réel intérêt historique. Après, plastique, j'en suis moins sûre, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il était quand même connecté à tout le milieu des avant-gardes qui s'inventaient à ce moment-là. On le voit notamment proche de Kupka, sauf que lui, il va pas du tout bifurquer vers la voie de l'abstraction. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que il y a pas mal d'expos ou de livres qui sont un peu, notamment Pascal Rousseau qui mène un peu de ces recherches-là, autour de l'occultisme, du spiritisme, dans la naissance de l'abstraction. Donc on voit que c'était présent effectivement aussi chez Moucha, qui n'était pas du tout isolé, qui connaissait un peu tous ces gens-là, mais qui s'obstine effectivement dans une voie assez démonstrative et pesante, quoi. Oui.
Alors c'est vrai que je me rappelle pas que Corinne Rondeau, on a vu beaucoup d'expositions ensemble au musée Fabre à Montpellier, parce qu'on aime bien ce musée et cette ville. Je sais pas si on était ensemble pour l'exposition Moucha, c'était en 2009, très belle exposition, je sais pas si vous l'aviez vue à l'époque, elle était organisée par le musée du Belvédère, la Kunsthalle de Munich, et il y avait vraiment une vision extraordinaire de Moucha, et moi je trouve que ça reste l'exposition de référence, malgré l'intérêt que peut avoir celle du Luxembourg. Est-ce que vous aviez une connaissance particulière en dehors des boîtes lues?
Ah ben oui, je veux dire, le copain de Strindberg, Maeterlinck, si vous voulez, et Huysmans, ça m'étonne pas qu'il soit franc-maçon, que... Voilà, l'exposition est très bien, moi je trouve qu'elle est parfaite, à la fois c'est le type qui était dans l'art nouveau, en même temps il n'était pas exactement à l'endroit de l'art nouveau tel qu'il s'est fait, il vient avec son influence florale, voilà, il arrive à mettre un nombre d'entrelacs incroyables, d'une densité, d'une solidité folle dans ses affiches. Voilà, moi j'ai plutôt, c'est pas lu, mais c'est Mouette et Chandon, hein, parce que
on
se nourrit pas de la même manière. Et alors, si vous voulez, moi j'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a un dessin très vite où on voit Vision. C'est un dessin qui arrive très vite dans l'exposition. On dit, bah oui, les visions, parce que ces visions vont revenir dans la partie franc-maçonne, le mystique, etc. Donc moi je suis pas du tout étonnée de la dimension mystico, qui pour moi est mystique et pas du tout politique, mais nationaliste. Et puis par ailleurs, j'ai trouvé la scénographie formidable, très dynamique, pour le musée du Luxembourg, où vraiment parfois on a du mal, c'est pas simple. Bon, on a la dématérialisation là du grand cycle de l'épopée slave. Bon, on est en train de nous dire les images, vous allez les voir bientôt sur les écrans. Moi, ça m'a beaucoup gênée parce qu'il y avait des images fantômes à l'intérieur, et donc c'était gênant. Mais je trouvais la scénographie super.
Alors enfin, c'est l'atelier Massiège Fischer, ouais. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et
c'était très réussi, il y a des moments où vous vous arrêtez entre les bijoux, les parfums, le dessin, genre, tout ce qui est de l'ordre, de l'art et de la vie, qui est justement les arts décoratifs et en même temps, il n'y a plus de distinction. Parce que vraiment, Mucha, c'est...
Oui, c'est pas du remplissage ces pièces-là, elles sont tout. Vraiment absolument partie intégrante
de l'œuvre. En fait, c'est très intéressant cette bascule qu'il y a, parce qu'en fait, l'art, c'est la restauration de l'unité. À l'époque, et surtout pur Mucha. Alors, d'un côté, vous avez art, beaux-arts et art décoratif qui s'unissent. Et puis, dans le deuxième temps, la personnalité de Mucha qu'on va voir apparaître, qui est celle de la société. Alors, la société, il la voit du côté nationaliste et justement de valoriser ce patriotisme slave, puisqu'il va finir sa vie plutôt du pays de ses origines. Mais, enfin, je veux dire, le type a fait un grand écart. Il arrive en 87, en 97, il a déjà la Légion d'honneur. En 1904, il est aux États-Unis. Et en 1900, avant, il repart et il fait des tableaux en 33 sur l'hitlérisme qui est en train de monter. Donc en fait, il a un panel sur le drame, je dirais, mais qu'il voit toujours par le prisme des pays slaves, bien sûr. Moi, j'ai été très, très épatée par la question comment je passe du format affiche à ces formats picturaux. Gigantesque, du 8 par 7, et dont le cycle à la fin, l'âge de raison, l'âge de je ne sais plus trop quoi, qu'il n'aura pas réalisé. Mais les photographies qu'on voit de l'époque, c'est invraisemblable. Et ce type est capable de mettre dans n'importe quel type de format, je veux dire, pléthore de choses. C'est une sorte de, voilà, de grande énergie.
Ingrid, Gagan.
Même si j'aime pas. Hein.
Oui, non, bah voilà, pour moi, c'est un intérêt historique. Hein,
bah oui, mais bon, on peut être épaté par le
moment. Mais effectivement, voilà, il y a plein de petites photos où on voit Gauguin, pince sans rire, en train de jouer de l'harmonium. Bon, c'est assez drôle. Hein, et effectivement, bon, la dernière partie, ça montre le parcours d'un artiste comme ça, c'est singulier quoi, qui persiste dans sa voix.
C'est plus que ça pour vous, Frédéric Bonnet ?
Non, moi je suis parfaitement d'accord avec Corinne sur l'intensité du parcours. Après, c'est vrai que les œuvres en elles-mêmes de la fin, on en revient à la bonne expression nationaliste, la glorification des corps, la gloire nationale, etc. Il y a des moments où c'est un petit peu pesant, mais il n'empêche que effectivement le grand écart fait par un artiste entre les affiches de Moët et Chandon et les boîtes de biscuits et ce type de représentation nationaliste est quand même assez saisissant.
Corinne, encore un petit mot ?
C'est vrai. Moi, je trouve que c'est très fort. Ce travail, ce passage est très fort. Puis il disait, de toute façon, que lui, il préférait être un illustrateur populaire que de faire de l'art pour l'art. On sent qu'il a déjà, c'est presque un artiste moderne, ou contemporain. Genre, j'ai un message pour le peuple. Et ça, voilà, c'est la vraie question politique du peintre. Elle est plutôt là que sur la dimension plastique, pour moi, pour la question, voyez.
Ça va trop loin pour vous, une grande
Pour moi, quand il y a un message aussi clair, c'est de la propagande, pour le coup, mais... Mais oui, du coup, c'est aussi subtil qu'un corps de chasse.
Oui, mais de toute façon, oui, mais vous savez, il y en a encore, hein, parmi nous. Méfiez-vous, Ingrid. Attention.
Et ils seront prochainement à l'affiche de la dispute. Non, on verra. On en parlera, ça fera l'objet de petits salons. Si vous voulez rajouter quelque chose, Corinne Rondeau.
Non, je dis que cette exposition est très réussie.
Bon, ben voilà, c'est pas...
Et vive l'occultisme, hein, c'est tout ce que j'ai dit.
Alphonse Mucha, c'est à découvrir, vous avez le temps, jusqu'au 27 janvier 2019, c'est au Musée du Luxembourg, et le catalogue est publié par la RMN Grand Palais. Et on va raconter une autre histoire, Corinne Rondeau, avant le jeu de la dispute, non ?
Oh oui, de Chris Marker dans les Coréennes, si vous voulez bien l'histoire de Sim Sean. C'est comme en fait sans famille chez nous.
Ouais,
et en fait, Chris Malo. Marker est au théâtre, il est avec son ami. Et en fait, à l'entracte, donc elle est jetée aux esprits de la mer. Et donc, il y a l'entracte, mais Chris Marker la rassure en lui disant « Vous inquiétez pas, vous savez, ça va bien se passer. » Et en fait, son ami l'avait vue 200 fois, mais elle pleurait pendant l'entracte. Et elle répond ceci à Chris Marker, « Comment pouvez-vous être si certain de l'avenir ?» Je trouve ça admirable. Tout le livre est comme ça. Et pas que comme ça.
À l'arachnéa. Et il y a les photos coréennes. Le supplément du coup de cœur. On n'a pas de jingle pour le supplément du coup de cœur, mais on va passer tout de suite.
Thomas va nous faire ça.
Au jeu de la dispute avec Sarah Dion qui nous a rejoint comme chaque soir. D'abord, elle va nous rappeler, Sarah, la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse.
Au sein de quelle ville européenne peut-on retrouver des vitraux réalisés par Alphonse Mucha?
Et donc, la réponse est...
La réponse est Prague.
On fait gagner ce soir des places de cinéma pour aller voir Mademoiselle de Jonquière, le film d'Emmanuel Mouret qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont on parlera vendredi dans notre dispute cinéma. La question est...
De quelle œuvre de Diderot le film Mademoiselle de Jonquière est-il inspiré?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations, parce qu'on avait encore une autre histoire de Chris Parker par Corinne Rondeau, mais ça c'était hors antenne. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter Corinne Rondeau, podcaster pour Corinne Rondeau qui a envie de dire quelque chose.
La dernière phrase, au fond de ce voyage il y a l'amitié humaine, le reste est silence.
And the rest is silence. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Laurent Nunez, Jean-Christophe Brianchon et Florent Georgesco. Notre sommaire, La douce indifférence du monde, Peter Stamm. Une vie en l'air de Philippe Vassé et Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix à l'art. Il y aura également un coup de cœur qui sera dévolu cette fois Laurent Nunez.